Stanislas de la Boulay, vous êtes notre nouvel ambassadeur à Rome, près du Saint-Siège. Je crois que vous avez toujours eu un intérêt pour les médias. Vous avez en effet, de 1991 à 1995, été à la tête de la direction de l'audiovisuel du ministère des Affaires étrangères. Comment est-ce que vous avez vécu cette charge?
C'était un grand tournant dans ma carrière, parce que jusqu'alors, je m'étais plutôt occupé d'affaires européennes. J'étais allé à Bruxelles, à Paris, je m'étais occupé des questions budgétaires, des questions institutionnelles. C'est un grand moment pour la construction européenne. C'était après le Conseil européen de Fontainebleau, et le président Mitterrand avait relancé un peu la dynamique européenne. Mais c'est ça qui est merveilleux au ministère des Affaires étrangères, on peut changer de métier. Et après un stage à Madrid, où je m'étais encore beaucoup occupé après l'adhésion espagnole de questions européennes, me voilà nommé, dans un métier tout à fait nouveau et que je ne connaissais pas, à la tête de l'audiovisuel extérieur du ministère des Affaires étrangères.
Parce qu'on peut revenir un petit peu sur votre carrière, vous êtes agrégé de lettres.
À l'origine,
et vous
oui.
avez été professeur aussi.
Oui, tout à fait. J'ai passé l'agrég de lettres modernes en 70, à 23 ans, et je suis parti tout de suite pour la Tunisie comme coopérant. C'est l'époque où la France envoyait beaucoup de coopérants à l'étranger. Et j'étais prof 2 ans à Sfax, où j'ai commencé à apprendre un peu l'arabe dialectal.
Alors vous êtes très proche aussi de tout ce monde du bassin méditerranéen. Quels sont vos liens?
D'abord, je suis né au Liban. Mon père était diplomate et il était là en 1946, l'année de ma naissance. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma coopération nationale en Tunisie en 1970, entre 70 et 72. Et puis après, je suis retourné à Jérusalem où j'ai été 4 ans consul général. Mais en fait, j'ai baigné dans une atmosphère très méditerranéenne parce que mon père, qui était diplomate aussi, avait été chargé des affaires d'Afrique du Nord. Et il était lui-même l'exécuteur testamentaire d'un grand monsieur, un professeur au Collège de France qui s'appelait Louis Massignon et qui était le grand spécialiste du dialogue avec l'islam, le grand spécialiste de la spiritualité chiite. Et j'ai vécu dans cette atmosphère toute ma jeunesse.
Donc une atmosphère très ouverte sur le dialogue avec l'islam.
Je suis un grand admirateur de l'islam. J'ai pu beaucoup parler à des amis musulmans, m'interroger sur le caractère de leur spiritualité, les interroger sur ce qu'était Dieu pour eux, parce qu'au fond, il est assez différent de ce qu'est Dieu pour moi, en tout cas. Et ça m'a toujours intrigué. On dit qu'il y a 3 religions monothéismes, mais est-ce que c'est le même monothéisme? C'est la question que je me suis posée. Et souvent à Jérusalem même.
Et dans ce parcours, j'imagine que vous avez aussi rencontré, par les livres, Charles de Foucault. Parce que Charles de Foucault, lui aussi, après son voyage, dit qu'il avait été bouleversé par ces musulmans qui priaient.
Et pareil pour Louis Massignon. Louis Massignon, d'ailleurs, qui était un très proche de Charles de Foucault. Ce sont des gens qui sont revenus à Dieu par l'islam et qui n'ont jamais trouvé incompatible le fait d'être revenu à Dieu par l'islam, qui leur a appris la spiritualité, mais qu'ils ont approfondi ensuite dans le christianisme.
Vous dites, est-ce que c'est bien le même Dieu? Quelle réponse vous y a apporté aujourd'hui, après toutes ces années?
Je ne sais pas. Je crois qu'on est très marqué par l'éducation qu'on a reçue comme enfant, par les images pieuses même. Moi, c'est dans un livre, je crois, de Daniel Rops que j'ai eu les premières images de la Bible. C'était un livre très bien illustré, où il y avait un Dieu le Père avec une barbe dans des nuages. Et je dois dire que maintenant, alors que j'ai plus de 60 ans, figurez-vous que les images que j'ai en tête, eh bien, c'est ces images de ces livres d'histoire sainte de mon enfance. Et je crois que ça vous marque à vie. Et ensuite, c'est beaucoup plus dur de se, disons, de rendre plus pur.
De se détacher.
Et le côté iconoclaste de l'islam, le fait de ne pas représenter Dieu, peut-être que ça leur procure un certain avantage.
Vous avez aussi été à Jérusalem.
Écoutez, ce qui m'a énormément intéressé à Jérusalem, c'est le dialogue avec les différentes congrégations religieuses qui sont sur place, notamment les françaises, que ce soit l'école biblique avec les dominicains, que ce soit le monastère d'Abou Gosh avec les bénédictins, mais que ce soit aussi Ratisbonne ou les Sœurs de Sion, toutes ces communautés qui entretiennent un dialogue avec la Terre Sainte et avec le judaïsme, et donc les origines juives du christianisme. Les 4 années que j'ai passées à Jérusalem, je peux dire que sur le plan intellectuel, c'est surtout autour de cette question-là que je me suis penché avec mon épouse et mes enfants, et découvrir à quel point le christianisme est juif est quelque chose qui a été pour moi une découverte. À quel moment le christianisme de secte juive bascule pour devenir une religion universelle, le rôle de Saint Paul, on est en l'année de Saint Paul, bon, ça c'est une des questions qui m'a semblé les plus intéressantes qui soient.
Et justement, par rapport à ce que vous disiez sur l'image, est-ce que ce rapport à la parole a permis un certain détachement ?
Je crois que c'est dur. C'est assez dur, mais je pense que c'est là où la liturgie, je crois, joue un rôle important. Par exemple, la vie des moines, un monastère comme à Bougoche, où je me rendais souvent, la beauté des chants, je crois que ça aide justement à épurer tout ce qui est en trop dans votre esprit et qui vous empêche peut-être d'accéder à ce niveau supérieur qu'est d'accéder à la spiritualité.
Vous avez été envoyé par le gouvernement français pour mettre en place des moyens audiovisuels pour l'autorité palestinienne.
C'était tout de suite après les accords d'Oslo. Effectivement, notre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, souhaitait que l'on aide l'autorité palestinienne à se doter de moyens audiovisuels. Et avec l'UNESCO, nous avons, avec des moyens relativement limités, nous avons aidé les Palestiniens à se doter d'un car studio et nous avons formé les journalistes, la radio, mais également de la télévision, à travailler. Et c'est ça ce qui m'a mis en contact avec les Palestiniens, surtout la représentante de Palestine à Paris, la fameuse Leïla Chaïd, que tout le monde en France connaît et qui est devenue une amie très proche. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert l'étendue et l'intérêt de la question israélo-palestinienne et j'ai demandé à partir pour Jérusalem comme consul général. Le ministre de l'époque, c'était alors M. de Charette qui avait succédé à M. Juppé. M. de Charette, qui connaissait bien la Terre Sainte, m'a fait le grand plaisir de me nommer à la fin de 1995 dans cette position-là. Donc je suis venu à Jérusalem par le biais de l'audiovisuel.
Et alors là, vous allez faire aussi des rencontres marquantes.
Le consul général à Jérusalem, le consul général de France, a une position tout à fait étonnante pour un représentant de la République, puisqu'il hérite d'une vieille fonction des représentants de la monarchie française d'abord, de l'Empire et de la République, et celui d'être protecteur des chrétiens. C'est très exagéré. On est surtout lié au latin, on est lié aussi aux différentes églises liées à Rome, dont la France était traditionnellement effectivement la protectrice. C'est la protectrice du temps des Ottomans. Quand l'Empire ottoman s'est défait, curieusement, le consulat général à Jérusalem est resté autonome et il n'a jamais été attaché, par exemple, à Tel Aviv. Il est directement relié à Paris. Il y a un lien très fort entre le consul général et les différentes congrégations religieuses, françaises bien évidemment, mais aussi les églises orientales liées à Rome. Par exemple, l'église syriaque ou l'église melkite, bien sûr les maronites, qui sont présents à Jérusalem. Et donc j'allais très souvent dans les cérémonies religieuses de ces différentes congrégations. Et donc, j'avais des liens très étroits avec les différentes congrégations.
Et là, de nouveau, vous êtes en dialogue avec l'islam.
Bien sûr, les Pères Blancs ont en particulier, parmi leurs vocations, celle d'entretenir ce lien très étroit avec l'islam. Même chose pour les Dominicains, je pense surtout aux Dominicains du Caire, mais les Dominicains qui étaient présents à Bagdad également.
Quels ont été les points forts de ces années à Jérusalem ?
C'est une autre approche, et d'ailleurs j'en avais beaucoup parlé au cardinal Lustiger avant de partir, parce que je suis allé le voir. C'est en fait la présence chrétienne en terre d'islam. Les chrétiens très minoritaires parmi les musulmans. Il y avait une forte minorité chrétienne chez les Palestiniens, qui a malheureusement énormément diminué, parce qu'ils ont beaucoup émigré. Mais beaucoup d'entre eux sont là et courageux. Et il y en avait beaucoup dans l'entourage d'Arafat lui-même. Le preneur de notes, Nabil Aboudena, par exemple, qui est devenu un ami, était un chrétien. Ils avaient une présence discrète, mais ils étaient très présents. Et très présent parmi les personnalités politiques du monde palestinien que j'ai rencontré. Mais des chrétiens aussi en Israël, des chrétiens nombreux à Nazareth, des chrétiens nombreux à Haïfa, parmi les populations arabes, et puis des chrétiens aussi parmi les immigrants en provenance de Russie notamment, et que l'on retrouvait dans nos églises. C'était assez étonnant comme situation, mais ça m'a amené à beaucoup réfléchir à la position des chrétiens minoritaires en terre d'islam. Et quelle était la place qu'on pouvait leur faire ? Question qui se pose dans d'autres pays que dans les territoires palestiniens, mais qui se posait de façon importante. Je voyais bien que la situation de nos sœurs à Bethléem, alors que l'autorité palestinienne se mettait en place, était peut-être moins confortable qu'elle ne l'avait été du temps où c'était l'autorité israélienne qui s'imposait sur Bethléem. Et ça posait des questions et c'était un sujet de dialogue que je pouvais avoir avec l'autorité palestinienne. Il est un fait que le christianisme n'a pas une position facile en terre d'islam et qu'il est grand temps que l'on envisage une évolution de tout ça. Je reviens d'Oman, où j'ai été passer une semaine avec mes enfants, à camper. J'y ai vu une église que les Omanais m'ont montré très fièrement. C'est quelque chose de nouveau. Je sais très bien que cette situation n'est pas très répandue dans la péninsule arabique. Mais je sais que des progrès sont possibles. Et ils sont possibles précisément par le dialogue politique que l'on peut avoir avec les autorités politiques. Je pense qu'on peut arriver à une cohabitation plutôt fructueuse. Je reviens de Russie, j'ai été au Tatarstan. Et j'ai entendu les responsables politiques locaux me parler d'une relation paisible entre l'islam et des populations chrétiennes. J'ai vu la cathédrale de Kazan, la capitale du Tatarstan, face à une mosquée nouvellement érigée. Et c'est, me semblait, hautement symbolique d'une cohabitation qui est possible.